Massif.
Politiquement vôtre, le rendez-vous politique en Lorraine, Roger Kezel.
Bonjour, bienvenue dans Politiquement vôtre, l'émission politique de RCF Lorraine réalisée par Cédric Rouillon. À mes côtés dans ce studio, Arlette Pergeon, toujours fidèle au poste en 2021 comme en 2020. Bonjour Arlette.
Bonjour Roger.
Et puis un invité grand témoin, qui est aujourd'hui Bruno Terray, le président du Conseil économique et social de la Grande Région. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Et surtout avec nous aujourd'hui, nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir, Christophe Arendt, qui est le député de la Moselle, très impliqué dans le franco-allemand, on va beaucoup en parler. Bonjour Christophe.
Bonjour et mes meilleurs voeux à toutes et tous.
Merci
et
beaucoup.
Bonne année aussi. Avec vous, nous allons évoquer l'actualité, les sujets ne manquent pas, et comme chaque semaine, nous allons commencer l'émission par le portrait de notre invité, portrait réalisé par Arlette Pergeon.
Alors Christophe Arendt, vous êtes né le 12 août 1975 à Petite-Rosselle. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Petite-Rosselle, c'est une commune d'environ 6000 habitants qui se trouve tout près de Forbach. Autant dire que vous êtes un vrai enfant du pays, puisque je crois savoir que vous n'avez jamais quitté cette région à laquelle vous êtes viscéralement attaché, et c'est peu dire. Vous avez effectué vos études supérieures à la faculté de Nancy, où vous avez obtenu votre diplôme de chirurgie dentaire. Vous y exercerez pendant quelques années en tant qu'enseignant-chercheur. Puis vous tournerez vers l'exercice libéral de votre profession. Vous ouvrirez votre cabinet de chirurgie dentaire à Forbach. Mais vous avez, pour quelque temps du moins, disons-le, renoncé à poursuivre cette activité médicale compte tenu des obligations qui sont les vôtres depuis votre entrée en politique. Alors, entrée en politique, vous l'aviez faite, vous y aviez goûté un petit peu à ces affaires publiques en siégeant au conseil municipal de Petite-Rosselle dès 2014. Mais c'est en 2017 que vous découvrez l'exigence d'un mandat national. Et vous voilà député, membre de La République En Marche, et depuis octobre 2020, adhérent à Territoire de Progrès, qui n'est autre qu'un parti appartenant à la majorité présidentielle. En 2017, année du changement, du renouveau aussi, on découvre bon nombre de parlementaires, jeunes souvent, vous l'êtes, inexpérimentés parfois, dit-on, ça ne semble pas être votre cas, mais surtout très vite, vous avez pris vos marques, et vous décidez de mettre toute votre énergie pour être à la hauteur de la tâche qui vous a été confiée. Au sein de l'Assemblée nationale, alors vous avez de multiples fonctions, et parmi celles-ci, je citerai simplement présidente du groupe d'amitié France-Allemagne et vice-présidente du groupe d'études sur les langues et cultures régionales, et vous siégez en outre à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Vous avez plus d'une corde à votre arc. Mais au-delà de cela, Christophe Arendt, vous êtes un passionné de votre région, de son histoire et de tout ce qui touche à sa proximité avec l'Allemagne. On ne s'étonne donc pas que vous soyez si investi dans les relations franco-allemandes. Avec la fougue et l'énergie qu'on vous connaît, vous portez ces sujets à l'Assemblée nationale. Il convient de souligner que vous siégez notamment à l'Assemblée parlementaire franco-allemande, dont vous présidez d'ailleurs le bureau français, rien que cela. Alors Christophe Arendt, pardon, on l'aura compris, vous êtes un homme d'action, un boulimique de travail, un ardent défenseur des droits de vos concitoyens et un Européen convaincu, bien évidemment. Alors, monsieur le député, merci d'avoir trouvé un peu de temps dans cet agenda chargé pour venir à notre micro et répondre à nos questions.
Christophe Arendt, Arlette a évoqué votre engagement dans l'Assemblée parlementaire franco-allemande et je pense que vous allez nous en dire un peu plus sur cette Assemblée-là qui prend de plus en plus d'importance.
Alors on a déjà un petit bilan, oui, l'Assemblée parlementaire franco-allemande est le résultat d'un accord parlementaire entre le Bundestag et l'Assemblée nationale conclu mars 2019. Elle se compose aujourd'hui de 50 députés français, 50 députés allemands, d'un bureau exécutif de 10 français, 10 allemands, et elle a derrière elle 5 séances plénières ordinaires et 2 séances plénières extraordinaires en pleine crise sanitaire. Elle a à son actif aujourd'hui 5 groupes de travail, dont l'un sur l'intelligence artificielle a rendu ses conclusions, et elle a à son actif plus de 6 résolutions communes.
Et vous êtes responsable du bureau de cette assemblée, donc avec un député allemand,
Je co-préside le bureau de l'Assemblée parlementaire.
Donc vous avez une fonction importante.
Avec mon ami et homologue allemand Andreas Jung, député de Constance. À la frontière suisse.
Alors on dit parfois que vous héritez un peu vos différents gouvernements, vous et puis votre collègue allemand. De temps en temps, vous les secouez un peu. C'est vrai?
Oui, on dit qu'on est gentiment des irritants aujourd'hui. On essaie côté français un petit peu de profiter de la force du parlementarisme en Allemagne pour un petit peu nous imposer côté français.
Impulsgeber, comme on dit en Allemagne, vous donnez des impulsions.
C'est ça, c'est exactement ça. L'objectif de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, c'est de donner des impulsions françaises et allemandes à nos gouvernements.
Moi, je voulais juste poser une question de Candide. Est-ce qu'une telle entité existe avec d'autres pays?
C'est une entité unique au monde. C'est unique au monde, c'est une première que des députés de deux parlements se mettent ensemble et prennent des délibérations et des résolutions communes.
Le climat est bon, comment ça se passe? Le climat est bon, est-ce que du côté des Allemands, par exemple, il y a des gens de l'opposition? Enfin, ils sont tous de la même tendance?
Alors, si vous voulez, aujourd'hui, non. L'ensemble des familles politiques du Bundestag et de l'Assemblée nationale sont représentées. Vous avez 9 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous en avez 6 en Allemagne. Et un exemple, au printemps, lorsque nous étions en pleine crise sanitaire, il n'y avait qu'à l'époque-là 15 familles politiques, 9 en France, 6 en Allemagne. On a réussi à délibérer un texte à 12. 12 groupes parlementaires qui étaient d'accord de demander la souveraineté sanitaire européenne et l'engagement de fonds européens, ce qu'on appelait à l'époque les coronabonds. Longtemps avant l'initiative Macron-Merkel qui date du 18 mai, là je vous parle de quelque chose qui s'est produit le 8 avril.
Y compris avec l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, ils sont partie prenante dans cette affaire-là?
Alors, il y a un député de l'AFD qui siège au bureau, Norbert Kleinwächter, et sincèrement, on arrive à avoir des discussions constructives. Alors, on ne peut pas intégrer leurs idées, c'est sur le plan des idées, où un démocrate
ne peut pas. Mais vous ne fermez pas la porte?
Non, la porte n'est pas fermée. Le jeu, c'est que chacun puisse s'exprimer de part et d'autre, l'ensemble des groupes parlementaires français et allemands.
Alors, vous qui êtes un observateur très, très, très attentif et très précis des relations franco-allemandes, comment vous définiriez aujourd'hui les relations franco-allemandes? Elles sont suffisamment fortes? Elles sont efficaces? Enfin, le climat est bon?
On est passé d'un traité de réconciliation, traité de l'Elysée en 63, à aujourd'hui un traité d'amitié, de coopération, d'intégration. Sur le plan parlementaire, je dirais aujourd'hui qu'on a un binôme qui fonctionne, deux binômes qui fonctionnent formidablement bien. Le binôme Wolfgang Schäuble-Richard Ferrand, alors, qui sont nos moteurs.
Et Schäuble, c'est le président
du
Bundestag.
Alors, Richard Ferrand, pour la petite histoire, Wolfgang Schäuble est le plus vieux parlementaire en fonction et depuis le plus longtemps dans le monde. Et l'autre binôme, nous sommes devenus amis, c'est Andreas Jung et moi-même. Alors, moi, je lui dis « Wir schaffen das » et lui, il me répond « En marche ».
Ouais, « Wir schaffen das », ça veut dire « En clair, nous allons y arriver hein. ». C'était le slogan qu'avait lancé Angela Merkel au moment des immigrés. Les coopérations, elles portent sur quoi?
Alors, écoutez, aujourd'hui, on est essentiellement sur les deux dernières délibérations concernent donc les conclusions du groupe de travail sur l'intelligence artificielle, qui est l'innovation de rupture, hein, qui est un sujet majeur. Hein, on parle de transition énergétique, on peut aussi parler de transition technologique, et une résolution qui, gère comment aujourd'hui on gère ensemble la crise sanitaire, mais aussi comment on va gérer les conséquences. Les groupes de travail se sont exprimés, donc je l'ai dit, sur l'innovation de rupture, un groupe de travail sur le Green Deal, donc l'économie verte, un groupe de travail sur asile, migration, intégration, un groupe de travail sur un code des affaires communes franco-allemand et un groupe de travail sur défense et politique étrangère convergente.
Comment vous définiriez aujourd'hui les relations franco-allemandes en dehors du travail énorme que vous faites? Est-ce qu'il y a un vrai climat de confiance entre la France et l'Allemagne? Ou bien est-ce que vous pensez que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'il faut continuer à se battre?
Alors, il faut continuer à se battre en permanence, rien n'est jamais acquis.
Parce que on entend quand même certaines voix en France, par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui disent « l'Allemagne nous assassine, c'est une véritable catastrophe, il faut sortir de cette mécanique franco-allemande, Madame Merkel est une traîtresse à l'Europe ». Tout ça existe comme en France.
C'est un bon signe de la démocratie française que certains puissent se permettre de dire des choses auxquelles je n'adhère pas du tout. Je dirais que j'y vois un signe de bonne santé de notre démocratie.
Oui, on voit que vous devriez faire de la politique, hein, parce que vous êtes capable de répondre à ces choses-là. Donc vous, le couple franco-allemand, pour vous, c'est quelque chose qui est au centre du débat.
Alors, le couple franco-allemand, en allemand, on dit le moteur franco-allemand. Hein.
Moteur, oui.
Pour moi, aujourd'hui, l'Europe est un bateau à voile, avec donc plus que 27 passagers sur ce bateau. Et l'idée de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et du traité d'Aix, c'est qu'à un moment donné, la France et l'Allemagne ont envie de faire avancer le bateau un peu plus vite sans en exclure personne. Donc nous avons la capacité aujourd'hui de souffler peut-être plus fort dans les voiles. Personne ne doit nous en empêcher. Mais par contre, demain, certainement que la France et l'Allemagne auront besoin des 25 autres et qu'aujourd'hui, il faut donner envie aux 25 autres de souffler avec nous dans les voiles. Et ça, on ne peut le faire que par des réalisations concrètes. L'amélioration du quotidien de nos compatriotes et surtout dans les zones tampons entre nos pays qui sont les zones frontières. Alors juste,
je suis un peu long, un tout petit chiffre.
Si vous prenez une bande de 25 km de part et d'autre de toutes les frontières européennes, vous y cristallisez 140 millions d'habitants. C'est un tiers de la population européenne aujourd'hui qui est dans des zones frontalières. Il faut que Paris et Berlin, pour la France et l'Allemagne, se rendent compte que c'est ici le creuset de l'Europe et que s'ils ne règlent pas les problèmes que les compatriotes français et allemands ont dans les zones de contact entre elles à cause de divergences de points de vue, eh ben, il faudra s'interroger sur l'idée européenne elle-même.
D'accord. On va y revenir sur cette question. Moi, je voulais poser une question et puis on terminera par l'Allemagne proprement dite. Vous êtes germanophile, évidemment. L'Allemagne, c'est un modèle pour vous ?
Alors, il y a des choses où l'Allemagne est un modèle, il y a des choses où la France est un modèle.
Et où est-ce que l'Allemagne est un modèle ou est-ce que nous, on est un modèle ?
Alors, moi, je pense que dans le parlementarisme, l'Allemagne peut être un modèle. Dans la manière dont l'Allemagne a la procédure budgétaire parlementaire allemande, où les choses sont affectées, où les choses, un projet, une ligne, dans la manière dont les parlementaires allemands peuvent imposer certaines choses à leur gouvernement, l'Allemagne est certainement un modèle. Là où l'Allemagne n'est pas un modèle du tout, par exemple, c'est la gestion de ses réseaux ferroviaires.
Voilà, sur un certain nombre d'équipements lourds, on continue à être en retard.
L'Allemagne reconnaît qu'elle a aujourd'hui des difficultés sur le ferroviaire, elle a des difficultés aujourd'hui, elle commence à avoir des difficultés dans le milieu scolaire, hein, au niveau des infrastructures, au niveau de l'équipement. L'Allemagne a des difficultés liées finalement à sa structure fédérale. Regardez aujourd'hui les divergences de politique de frontières liées à la chancelière qui réunit les ministres présidents qui essaient de définir une ligne et l'application est différente. Le Bade-Württemberg n'applique pas comme
ça. C'est le fédéralisme.
C'est l'inconvénient du fédéralisme. Le fédéralisme a des avantages lorsque les compétences sont données au plus proche des problèmes de subsidiarité, les compétences sont données au plus
proche. Vous pensez aujourd'hui que c'est un inconvénient, le fédéralisme, de ce point de vue-là, puisqu'effectivement, il y a des discussions permanentes entre la chancelière et les régions. Vous pensez que c'est un inconvénient ?
La chancellerie a elle-même, un conseiller de la chancelière a avoué lui-même qu'au mois d'octobre, la chancelière n'avait pas réussi à convaincre les 16 ministres présidents de mettre en place des mesures plus restrictives et plus dur en termes de restrictions de déplacement et de confinement pour lutter contre la crise. Et on voit aujourd'hui que l'Allemagne est dans un état sanitaire proche de l'état français, qu'il s'agisse du nombre d'infections, qu'il s'agisse des difficultés de vaccination, ou même qu'il s'agisse des niveaux de saturation des lits de réanimation.
Même s'il n'y a pas tout à fait... Il y a encore moins de morts pour l'instant en Allemagne qu'en France, quand même. Il y a 80 millions d'habitants en Allemagne.
Alors, si on prend l'intégralité, si on prend l'ensemble des morts depuis le début de la crise, n'oublions jamais qu'en France, nous avons eu un événement qui est catastrophique dans ce type de situation, qui était ce rassemblement à Mulhouse.
Alors, vous êtes très proche d'Armin Laschet. Je vous ai vu en photo avec Armin Laschet. Donc, Armin Laschet, c'est le patron de la CDU, qui pourrait devenir le futur chancelier allemand. Donc quand il sera leur chancelier, nous aurons la chance d'avoir quelqu'un qui est très proche du futur chancelier allemand. Comment vous voyez l'après Merkel comment ça va se passer? Parce qu'elle a quand même imprégné l'histoire de l'Allemagne de manière incroyable.
Pour Armin Laschet, la petite anecdote, c'est que le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie est le seul Land qui dispose d'un groupe d'amitié.
Et donc vous êtes en lien avec lui.
Qui est dirigé par un gars qui était régisseur du théâtre de Sarrebruck à une époque. et qui a pris contact avec le député président du groupe d'amitié France-Allemagne. Et donc, j'ai été reçu en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Oui, oui, je vous ai vu en photo.
Et bizarrement, en avril 2019, lorsque personne ne s'intéressait au fils de mineur qu'est Armin Laschet à Paris, que personne ne voulait le recevoir, le député Arendt, il a dit, moi, je vais le recevoir. Donc, j'ai été le premier à recevoir Armin Laschet en visite officielle à l'Assemblée nationale.
En tout cas, je vais vous poser une question toute bête, il a l'air bien sympathique, cet homme-là.
Armin Laschet, il est très bien, et en plus, il est intelligent, parce qu'il a réussi à se mettre d'accord avec Jens Spahn sur la formation d'un binôme. Maintenant, moi, je ne peux pas présager ou préjuger de qui sera chancelier en Allemagne, parce que...
Il faut se rappeler comment ça fonctionne, hein. Il est patron de la CDU, mais il y a une deuxième composante qui est la CSU, et donc avec le premier ministre de...
Zeder.
De Bavière, et que donc rien n'est joué, mais il est quand même pas impossible que ce soit le futur chancelier.
Il est de coutume, les usages de l'Allemagne, que le patron de la CDU devienne chancelier.
Bien, c'est intéressant qu'on entende un peu vous qui êtes vraiment spécialiste de l'Allemagne, qu'on entende un peu votre point de vue là-dessus. On va venir sur un autre débat, qui est le débat sur la fermeture des frontières.
Ben oui, la fermeture des frontières, parce que vous avez fort justement parlé tout à l'heure de la concentration de population autour des frontières. On parle, je pense, d'une frontière, mais qui laisse passer le virus. Donc, pourquoi fermerait-on les frontières?
Est-ce qu'Arlette peut encore aller en Sarre?
Faire mes courses là-bas.
Ouais, comme elle fait quasiment tous les jours.
Voilà.
Aucun problème. Vous avez une dérogation de 24 heures. Vous pouvez pénétrer sur territoire sarrois pour 24 heures, ce qui n'est plus le cas pour le Bade-Wurtemberg.
Alors, ils sont plus difficiles.
Un élément, hein. On parle là de frontières. Moi, j'ai été prendre en photo une frontière dimanche en me promenant en forêt. C'est une pierre, hein, avec une ligne qui est gravée au-dessus et pleine de mousse, et ce qu'on appelle une borne frontière. Mais aujourd'hui, il faut raisonner en termes de bassin de vie et pas en termes de frontières artificielles. Et c'est comme ça qu'on gère une épidémie. C'est quand, à l'échelle de bassin de vie, prenons la Moselle. Il y a un bassin de vie qui est la Moselle-Est qui compte 350 000 âmes. Ici, je suis sur le bassin de vie que j'appellerais du Sillon Mosellan, où il y a guère plus d'âmes. Et donc, on a deux bassins de vie équivalents et on voit bien quand on va de l'un à l'autre qu'on a une rupture de continuité urbaine.
Vous étiez beaucoup battu sur ce terrain-là, notamment avec la préfète de la Grande Région qui ne semblait pas tout à fait assimiler cette notion de frontière, quand même.
Non, ça c'est la deuxième partie, c'était pas au printemps. Au printemps, c'est les Allemands qui ont fermé de manière autoritaire. Au mois d'octobre, il me semble, la préfète de région, chez laquelle j'irai d'ailleurs déjeuner vendredi, avait fait une déclaration maladroite le matin sur France Bleu Alsace, qui de fait conduisait à une fermeture de frontières, de fait. Dans des discussions avec son conseiller diplomatique, Philippe Voiry, qui aujourd'hui est ambassadeur aux frontières, qui a été promu, nous avons réussi assez rapidement
à lui faire comprendre,
et elle a refait le soir même un démenti dans les dernières nouvelles d'Alsace.
Qu'il y avait des bassins de vie, ça veut dire en clair que quand on est à côté...
si je comprends bien, ces décisions-là... qui concerne le passage des frontières, ou toutes ces décisions qui se tiennent autour du Covid, elles ne doivent pas être prises de façon unilatérale, mais au milieu d'un bassin de vie, être prises de chaque côté de la frontière.
Si vous voulez, on a mis en place, par le traité d'Aix-la-Chapelle, entre la France et l'Allemagne, quelque chose qu'on appelle le comité de coopération transfrontalière, dans lequel sont représentés tous les échelons de la politique, depuis municipal jusqu'à législatif, en passant par département, région, français et allemand, mais aussi le ministère de l'Intérieur et les Affaires étrangères. Et ce comité de coopération transfrontalière, qui a été installé à Schloss Hambach le 22 janvier 2020, ils ont eu un peu du mal à y penser, et c'est Andreas Jung et moi qui avons saisi dès avril Clément, à l'époque Amélie de Montchalin et Michael Roth, qui sont donc secrétaires d'État aux affaires européennes, français et allemand, mais en même temps secrétaires généraux à la coopération franco-allemande depuis le traité de l'Élysée. Et c'est à l'intérieur de ce comité de coopération transfrontalière que doivent se prendre les décisions. Il est anormal, totalement anormal, qu'un préfet puisse prendre des dispositions particulières en concertation avec les autorités sanitaires. Ok, mais qu'il ne concerte pas les autorités transfrontalières lorsqu'elles existent. Il n'y a pas de caractère contraignant. Mais lorsqu'une... Et voilà. Et ça, nous essayons de le généraliser à l'ensemble des frontières françaises dans la loi 3D, 4D maintenant, puisqu'on a rajouté la décomplexification. Et avec mon collègue Sylvain Wasserman, nous allons rencontrer début février Madame Gouraud. Nous avons déjà l'aval de Clément Beaune pour intégrer dans la loi 4D un titre sur le transfrontalier de manière générale. Et c'est aussi le sens de mon engagement en tant que vice-président à la mission opérationnelle transfrontalière.
Parce que c'est une situation particulière, c'est-à-dire que quand vous avez des régions, pleines widerstrophes, grosses widerstrophes, on doit pouvoir circuler, notamment pour faire ses courses, sans problème. Quoi.
Alors c'est entre les deux, là, il y a un pont piéton qu'on appelle le pont de l'amitié.
Il y a le pont, il y a le fameux
moi,
pont,
je citerai Petite Rosselle. Grande Rosselle, où par exemple, les gens de Petite Rosselle, le magasin alimentaire, donc de première nécessité, le plus proche, eh ben, il est situé en Allemagne. Et quand il y a une pandémie, le but du jeu, c'est de restreindre les contacts en limitant au maximum ses déplacements. Et donc, on lutte contre la pandémie en laissant la personne de Petite Rosselle aller faire ses courses à Grande Rosselle plutôt que de l'obliger à faire 15 km.
Bien sûr.
Très bien. Bah, écoutez, si, on a bien compris. On a bien compris quelle était la problématique de la grande région. On est déjà à la mi-temps de cette émission, ça va vite. Retour dans le studio de Politiquement Vôtre avec Christophe Arène, député de la Moselle, très investi sur les questions transfrontalières et notamment sur les relations avec l'Allemagne, et on va commencer tout de suite avec une première question plus politique, de politique politicienne franco-française. Arlette adore ça, elle adore la politique franco-française.
Ah ben c'est pour ça que je suis là.
Eh bien, absolument. Allez-y.
Bon, alors, je disais tout à l'heure qu'en 2017, vous aviez été élu, vous avez soutenu Emmanuel Macron, vous faites partie d'En Marche. Je voulais savoir si c'était toujours le cas aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours derrière?
Je toujours en marche. Je suis un marcheur convaincu et je suis un convaincu de la politique du en même temps. Mais pas du nini, mais du et.
Très bien.
Comme et... en tant que chirurgien dentiste, ouais. J'ai été dans le monde libéral qu'on pourrait un petit peu qualifier de milieu un peu à droite. Mais en tant que fils et petit-fils de mineurs ayant grandi dans une cité minière, je n'ai plus oublié le côté social.
Mais de... ça ne s'approche pas un peu à droite quand même en ce moment, le gouvernement Macron, donc, non, on a l'impression que ça part plutôt sur la droite que sur la gauche, non?
Alors sincèrement, dire qu'on penche à droite alors ouais. qu'on a décidé de mettre en arrêt quasiment l'économie pour sauver des vies, je ne sais pas.
D'accord, donc vous pensez qu'effectivement c'est beaucoup plus au milieu qu'il y paraît?
Et pour moi, il y a un très grand nombre de mesures environnementales, de mesures sociales qui ont été prises et qui prouvent qu'on est équilibré. On Allez. Est équilibré.
Alors justement, ben on est dans le sujet là avec
On va parler de la gestion du Covid.
Oui. Voilà, on va parler de la gestion du Covid. Est-ce que vous pensez, vous allez me dire oui, bien sûr, d'après ce que je viens d'entendre, est-ce que vous pensez que le gouvernement a été à la hauteur? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Est-ce que Jean Castex fait le job tant que... Premier ministre, dans la gestion de la crise du Covid,
notamment par rapport à l'Allemagne. Qui
alors déjà, il y a eu deux premiers ministres qui ont eu à gérer cette crise. Il y a
c'est
eu
bien pour ça que je vous pose la question.
Et maintenant, Jean Castex. Et permettez-moi de remettre ma casquette d'enseignant-chercheur dans les disciplines médicales et de dire que la situation dans laquelle on est aujourd'hui en termes de connaissances du phénomène n'est pas du tout la même qu'était celle du printemps. Et si on analyse avec les connaissances d'aujourd'hui les agissements du printemps, on fait fausse route. On fait fausse route. L'autre chose importante à savoir, c'est que une infection, une pandémie de ce type-là, c'est quelque chose de dynamique, on le voit avec les mutants, et que les vérités d'aujourd'hui, qu'on appelle en science les données scientifiques avérées, peuvent demain ne plus être des données scientifiques avérées, et peuvent être contredites, et qu'il faut à tout moment faire preuve d'agilité et d'adaptation. Sur la vaccination, sur laquelle j'ai bien entendu l'élément,
est-ce qu'on n'est pas parti
faisant le compte à la fin du mois de janvier, oui. Et nous verrons que ce qui a pu sembler au départ oui. être un retard oui. à l'allumage n'est en fait lié qu'à une seule chose, cette différence d'appréciation dans la culture française et la culture allemande ouais. de la vaccination. L'exemple type, en Allemagne, j'ai discuté avec Jens Spahn, il y a 2 ans, il voulait recommander un vaccin. C'est-à-dire que le vaccin n'est pas obligatoire. C'est un vaccin qui existe chez eux. Si les gamins ne sont pas vaccinés, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. En France, on est à 11 vaccins obligatoires, si je ne m'abuse.
Ah oui.
Ça prouve bien déjà une différence de mentalité entre l'Allemagne et la France, avec des taux de vaccination sur ces maladies-là comparables.
Oui, mais vous connaissez comme moi la réalité allemande, vous regardez la télévision allemande. Les Allemands, très vite, ont mis en place ce qu'on appelle les vaccinodromes, ce qui est un drôle de nom. Mais...
Oui. Alors que nous, et très vite, ils les ont fermés.
Oui, mais nous, on a quand même attendu énormément. Il y a eu une espèce d'hésitation à un moment donné. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a eu peur d'une partie de l'opinion française qui était très anti-vaccin ?
Non, nous, on n'a pas eu besoin de fermer des vaccinodromes.
Ouais, parce qu'on n'a
pas
ouvert.
Parce qu'on avait, non, mais on n'a pas eu besoin de fermer de centres de vaccination.
Ouais.
Parce qu'on a eu, on savait tout à fait quel stock de vaccins on avait. On avait une politique qui était très similaire à celle de l'Allemagne, de vacciner d'abord les plus fragiles, donc les EHPAD et les personnes de plus de 75 ans non en EHPAD. Et aujourd'hui, on arrive quasiment au même pourcentage de population qui est vaccinée en France et en Allemagne. Sauf que les Allemands, ils ont démarré très vite en mobilisant l'armée, en faisant des drives.
Voilà, c'est ça.
Et derrière, ils ont été très... Au bout de 2-3 semaines, j'avais les retours, même 2 semaines, on n'a plus de stock, on n'a plus de vaccin. Oui. Donc, d'un côté, vous avez quelque chose... C'est le lièvre et la tortue. Hein.
Oui. Vous croyez,
ni alors, plus ni moins, hein.
Comment ça se fait qu'en France, on n'est pas foutu de mettre en place un vaccin d'organiser un vaccin, de créer un vaccin.
Ah, alors aujourd'hui,
pourquoi,
là on vient sur la recherche.
Oui.
Non, mais c'est pas les Allemands, c'est des Allemands avec des Américains, Pfizer, BioNTech,
oui, au départ,
c'est des chercheurs quoi. Américains et des chercheurs...
Oui,
alors, la vraie question, pourquoi ne sommes-nous pas capables de garder nos meilleurs chercheurs en France ?
Voilà.
C'est plutôt cela la question aujourd'hui. Pourquoi l'Europe n'est pas capable de garder aujourd'hui, entre guillemets, ses cerveaux ?
Oui. Vous qui connaissez bien l'Allemagne, j'ai cru entendre que les Allemands commençaient à donner un médicament. Alors, est-ce que c'est réel ou pas ?
Allemands, j'ai lu qu'ils étaient prêts à investir 2000 euros par patient sur le traitement qu'avait eu M. Trump. Hein.
Bon, ça paraît quand même curieux, ça.
Franchement, en médecine, il est toujours urgent d'attendre et d'avoir des données scientifiques avérées. On ne peut pas se permettre d'expérimenter. On a parlé de la colchicine aussi. Hein.
Bien sûr.
Voilà, de la colchicine dans le traitement de pathologie déclarée.
D'où vient cette information-là ? C'est quand même un peu surprenant, comme on imagine. On viendrait sur cette méthode-là en Allemagne et pas en France ?
Moi, je pense que la gestion correcte, elle est au niveau européen. Et d'ailleurs, les Allemands ont eu des problèmes avec ça aussi, hein, puisque Scholz, de la SPD, leur a reproché un petit peu d'avoir joué la carte européenne. Mais en tant que co-président de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et avec mon homologue Andreas Jung, nous continuons à dire qu'il n'y a qu'une manière raisonnable de gérer cela, et on revient sur les bassins de vie. Parce que si un jour on doit fermer une frontière, c'est la frontière extérieure européenne et pas les frontières intérieures. Et c'est dans ce domaine européen qu'on doit gérer, la crise sanitaire, deux, relocaliser l'industrie pour que le jour où on est reconfronté à une situation pareille, on ait de quoi se débrouiller en matière première de médicaments ou en matériel médical. Et trois, gérer les conséquences économiques. Et là, le plan de relance Next Generation EU de 750 milliards d'euros, Macron, Merkel, cet été à Brégançon, se sont engagés à y mettre des projets franco-allemands. Et votre humble serviteur ici présent et son homologue à Berlin, Andreas Jung, ont interrogé leur gouvernement pour que ces projets franco-allemands de Next Generation EU soient mis en cohérence avec les 15 projets concrets du traité d'Aix-la-Chapelle.
Alors on a la chance d'avoir toujours des toubibs, des docteurs, parce que la semaine dernière on avait Brahim Amouche, donc voilà.
Mon ami Brahim.
Donc c'est intéressant, parce que ça nous permet d'avoir des informations de première main. Les variants anglais, sud-africains, japonais, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, un virus, c'est normal qu'il mute. Et lorsqu'un virus mute, eh bien, c'est celui qui est le plus solide, le plus pathogène, c'est de la sélection naturelle, qui va prendre le dessus sur tous les autres. Hein. Et il va falloir faire en sorte que les traitements ou les approches qu'on ait puissent être actifs sur ces différents éléments.
Arlette Pergeon, elle s'intéresse beaucoup à la Lorraine et à la Moselle on perd un peu des habitants. Et donc
On perd des habitants en Moselle, malheureusement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser un petit peu la tendance, à votre avis ?
Alors, pour moi, là, permettez-moi de citer mon ami Michel Saint-Pé, qui est à l'agence d'attractivité Moselle, et qui dit souvent, nous sommes des polytraumatisés de l'image de nous-mêmes. On est un petit peu responsable de ne pas se mettre suffisamment en valeur par rapport notamment à mes amis alsaciens. qui, eux, savent être unis comme un seul homme et qui savent dire au petit Lorrain pourquoi tu as les oreilles parce que tes parents te soulèvent au-dessus des Vosges pour dire regarde comme c'est beau l'Alsace. Et moi, je leur dis, l'Alsace, c'est pas plus beau que la Moselle. Et en Moselle, on a tout ce qu'il faut. On a des universités, on a des aéroports, on a des gares grande vitesse. Sincèrement, la Moselle... Et en Moselle, vous avez des lacs, des étangs, vous avez des collines. La Moselle, elle n'a qu'un seul problème, c'est que les Mosellans pêchent par excès de modestie. La modestie est une qualité, l'excès de modestie peut être un défaut.
Moselle Attractivité, vous citez Michel Sapé qui dirige Moselle Attractivité, fait quand même un énorme travail pour essayer de faire en sorte qu'on se remobilise autour de la Moselle, quand même, non ?
Un homme seul, il ne peut jamais rien faire. Il faut qu'autour de lui se crée une dynamique, et il faut qu'autour de lui, il y ait des gens persuadés. Et alors, moi, à chaque fois que je peux citer Michel, je cite Michel, et à chaque fois que je peux dire que mon territoire est un beau territoire avec des potentialités énormes, eh ben, je le fais et je le referai. Et pas seulement à Paris, mais aussi à Berlin.
Nous sommes avec Christophe Arène, député de la Moselle, spécialiste des questions et très engagé sur les questions franco-allemandes. Est-ce qu'on est assez unis en Moselle et en Lorraine d'une manière générale ? On va venir aux Alsaciens tout de suite, mais est-ce qu'on est assez unis ?
Non.
On n'est pas assez unis ?
Non.
Qui est-ce qui pourrait être un peu le leader ? Patrick Weiden ? Jean-Luc Baule ?
Alors, moi, j'ai pas, si vous voulez, je ne pense pas qu'il faut s'unir autour d'un homme, il faut s'unir autour d'un projet. Pour moi, le projet aujourd'hui, il est de se dire, voilà, la Moselle, elle est au cœur de l'Europe. La Moselle, si on regarde, elle est frontalière avec l'Allemagne, avec le Luxembourg, peut-être un petit bout avec la Belgique, si on exagère un petit peu. La Moselle, elle est au cœur de ce qu'on appelle la grande région, qui vous est si chère, cher Roger. La Moselle, elle a absolument rien du tout à envier à l'Alsace. La Moselle, c'est le berceau de Robert Schumann.
Oui. Patrick Weiden ne fait pas le travail là-dessus ?
Bien sûr que Patrick Weiden fait le travail. Patrick Weiden a tout de suite réagi à la collectivité européenne d'Alsace par l'eurodépartement de la Moselle. Et Patrick Weiden, je crois avoir lu ce matin qu'il demande immédiatement les mêmes prérogatives. J'ai fait le travail de mon côté puisque je me suis assuré à l'époque de la loi sur la collectivité européenne d'Alsace que tout département qui en ferait la demande aurait les mêmes prérogatives. Et c'est ça qui est important.
D'accord. Alors on va venir à un débat compliqué. C'est Jean Castex, c'était la semaine dernière à Colmar. Il a fait une déclaration qui a surpris un peu tout le monde. Vous êtes dans la majorité de Jean Castex. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand il dit « Les Alsaciens, il faut vous donner encore plus de pouvoir. » Et puis cette grande région, finalement, en confidence, puisqu'il était tout seul, il n'y avait personne qui voulait pour l'écouter, cette grande région, finalement, elle est beaucoup trop grande.
Qu'est-ce que je vous dis, Jean Castex, il affirme que ce qui est écrit dans la loi, hein, quand on dit « On va donner plus de pouvoir encore à la collectivité européenne
encore,
d'Alsace. »
Encore
sauf que c'est prévu pour tous les autres aussi. Donc, donnons plus de prérogatives à la collectivité européenne d'Alsace, mais à partir du moment où la collectivité européenne d'Alsace a droit à une prérogative, la Moselle a droit au même. Ça, c'est écrit dans la loi. Hein. Ce serait une simple décision du Conseil d'État. La seconde chose, c'est qu'il ne faudrait quand même pas prendre le risque que ces prérogatives locales se fassent au détriment des prérogatives de la région, parce qu'à diviser les budgets, à diviser les énergies, moi, j'ai jamais rien vu réussir. Je vais donner un exemple qui peut-être va parler. L'Allemagne met 9 milliards sur l'hydrogène, la France met 7 milliards. 2 milliards de ces 9 Allemands iront sur un projet nord-africain. On voit bien qu'on est à parité. 7 milliards français, 7 milliards allemands. 14 milliards d'euros sur l'hydrogène. Eh ben, moi, je vous mets au défi de faire autant avec 7 milliards chacun de son côté que si nous mettions ensemble les 2 fois 7 milliards, 14 milliards, on ira beaucoup plus loin. Et c'est aussi ça, le sens de l'engagement. Aujourd'hui, il faut arrêter de systématiquement vouloir démonter ce qu'on a mis en place. Cette politique de la grande région, ok, on peut avoir un avis sur 2 fois plus grand que la Belgique, un tas de choses. D'ailleurs, on a subi, sur la crise sanitaire, on subit l'image de la grande région parce que l'Institut Robert Koch à Berlin nous classe sur l'ensemble de cette grande région, alors que s'il avait pris département par département, c'était différent. Mais la politique du un pas en avant, un pas en arrière, on n'avancera jamais. Donc moi je dis, ok, la collectivité européenne d'Alsace, elle a des prérogatives. Les autres collectivités, elles ont droit aux mêmes prérogatives. Si la collectivité européenne d'Alsace en acquérissait plus, eh bien nous devrions en avoir plus dans les autres collectivités. Et ça ne doit pas se faire au détriment de la région, des prérogatives de la région.
Vous noterez qu'il y a notre grand témoin, vous êtes président du comité économique et social de la grande région. région, donc qui regroupe l'ensemble des territoires de la Grande Région. Comment vous voyez cette évolution-là? Comment on va gérer le transfrontalier en étant aussi dispersé au niveau de la Grande Région? Question difficile, hein?
Alors, question difficile, la Grande Région, c'est 750 km. Le bien situé, c'est 33% de la population européenne. Donc il y a vraiment un vecteur économique important. C'est 9% de croissance de PIB si on levait les obstacles aux frontières. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut faciliter la vie de nos concitoyens de part et d'autre des frontières. Et comment faire? C'est plus près du citoyen, plus près du citoyen, c'est lever les obstacles, faciliter leur quotidien, notamment au niveau des travailleurs frontaliers. Ça, pour moi, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a une grande région, c'est un laboratoire d'idées pour l'Europe. C'est important, le sommet des exécutifs. Maintenant, il faut travailler de façon chorale. La France prend la présidence du sommet aujourd'hui.
Donc ce sera Jean Rottner qui va aujourd'hui présider le dispositif Grande Région. Comment il va faire? Les Alsaciens d'un côté, les Lorrains de l'autre?
Non, je ne pense pas, parce qu'il y a un espace aujourd'hui transfrontalier.
Ouais.
La CEA demande une prérogative aujourd'hui du transfrontalier pour.
Donc la CEA, c'est les Alsaciens, la communauté européenne d'Alsace.
Mais c'est surtout avec le Rhin. Là, l'espace grand régional, c'est surtout avec la Lorraine,
avec la Lorraine.
Les Luxembourgeois, avec les Belges aujourd'hui. C'est un espace de 750 km, c'est suffisant.
Ouais.
Je pense qu'avec les mécanismes d'expérimentation qui existent, on a le moyen aujourd'hui, de façon concrète, de lever
d'avancer.
Le obstacle et d'avancer.
Et qui c'est qui prend le leadership? Christophe Arendt?
Il est très bon dans le domaine.
Je suis un législateur. Je suis pas un exécutif.
Je suis un législateur.
Mais aujourd'hui, au niveau de la grande région, c'est important. On a le CPI, Commission parlementaire interrégionale. Ouais. Je pense que là, Christophe a des choses à dire, à faire dans ce cadre-là, peut-être.
Alors, ça, j'aurais peut-être
mes compétences.
Vous lancez, je crois que j'ai envoyé hier, j'ai fait partie d'un courrier parce qu'on m'a intégré dans la conférence du Rhin supérieur et au Conseil interparlementaire de la région. Pour le moment,
Il y a deux.
C'est une ouverture quand même assez intéressante.
D'accord, il y a deux ouvertures. Il y a la conférence du Rhin supérieur qui regroupe l'Alsace, le Bade-Wurtemberg, la Suisse et puis une partie du Rhin-Alsace. Et puis il y a de l'autre côté, donc la Lorraine est concernée, elle, par la partie ouest avec le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinale, la Sarre et puis la Wallonie.
Rien n'empêche de tirer quand même aujourd'hui profit des expériences des uns des autres, au niveau du Rhin supérieur, de la Grande Région, avec la Wallonie aussi, rééquilibrer tout ça,
ça marche
et essayer de faire quelque chose de cohérent.
Ça marche mieux.
Monsieur Théret a totalement raison dans deux choses fondamentales. La première, c'est le laboratoire. Et il faut que les ECBM, hein, c'est les mécanismes européens qui arrivent, nous aident à cela. La deuxième chose où c'est fondamental, c'est quand il parle des problèmes, il parle des 9 points de PIB, si on lève les obstacles. Aujourd'hui, on a un obstacle majeur qui est celui qui est dit de la double imposition des Français qui vont en Allemagne, qui touche aujourd'hui 15 000 citoyens, qui pourraient potentiellement en toucher 50 000.
Ouais.
Sur ce point-là, avec mon homologue Andreas Jung, on a saisi Scholz, Le Maire, on a Hubertus Heil, Muriel Pénicaud, Elisabeth Borne, Clément Beaune, Roth. Maintenant, on est arrivé à un point où on en a dit « on en a marre ».
Oui, c'est ça. Oui.
Il y a un courrier qui part cet après-midi au président de la République.
Oui.
Donc, ce que je demande au président de la République, c'est que le temps que la France et l'Allemagne se mettent d'accord au niveau gouvernemental, parce qu'il s'agit d'une différence d'interprétation de législation de la convention fiscale de 2015, le temps que la France et l'Allemagne se mettent d'accord sur la convention fiscale de 2015, je demande au président de la République qu'il mette en place un moratoire sur le prélèvement côté français de l'impôt sur le revenu de ses citoyens. Parce qu'on vit des situations dramatiques qui sont particulièrement inaudibles du point de vue du député qui défend le moteur franco-allemand. Et on a ça pour 15 000 citoyens aujourd'hui, potentiellement 50 000.
D'accord, les gens ne comprennent pas effectivement. Mais écoutez, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Alors, il y a une tradition. Bruno, terminé. Je suis désolé parce qu'on a le temps coule. Parce qu'on a une tradition qui est la question personnelle d'Arlette.
Pour une fois qu'on me laisse
vous avez un tout petit peu de temps. Il reste un petit peu moins de 2 minutes.
C'est vrai, je vous en sais gré, monsieur Kezel.
Je vous en prie, madame Perchon.
Alors, eh bien, écoutez, Christophe Arendt, moi, je vous découvre aujourd'hui. Je découvre quelqu'un de passionné, de fougueux, d'intarissable, d'incollable sur les questions franco-allemandes. Je suis sidérée par cette somme de connaissances. Je me dis que vous êtes élue seulement depuis 4 ans, si je sais bien compter, et je me demande comment, quand, avec qui, où vous avez pu acquérir une telle somme de connaissances,
oui,
pas à la fac de médecine quand même, pas dans la bouche de vos patients.
Oui, parce que votre
dites-moi votre secret, vous dormez parfois?
Il faut aimer les gens. Ouais, pour faire de la médecine, il faut aimer les gens. Il faut aimer ses compatriotes. Et en tant que dentiste et en tant que formateur, dentiste, enseignant, j'ai toujours dit, vous ne soignez pas des dents, vous soignez des êtres humains. Et aujourd'hui, j'aborde la politique de la même manière. C'est-à-dire qu'on vient me voir avec des problèmes et je ne m'accorde pas le repos tant que je n'ai pas au moins une proposition de solution à un problème. Alors, je ne peux pas faire des miracles. J'essaye de secouer et d'être irritant tant que je peux, d'être un aiguillon, et je continuerai tant qu'on me laissera faire.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite que vous le fassiez le plus longtemps possible. Merci Christophe Arène d'avoir répondu à nos questions. Merci à Arlette Perchon, à Bruno Terret qui nous accompagnait aujourd'hui, et puis à Cédric Rouillon qui a réalisé ce nouveau numéro de Politiquement Vôtre. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site de RCF. Nous nous retrouvons dès jeudi prochain avec un nouvel invité qui est Arlette, vous en souvenez-vous ?
Si, c'est Michael Weber.
Avec Michael Weber. Passez une bonne semaine à l'écoute de RCF en Lorraine comme ailleurs. À bientôt.